C'est donc l'heure du journal présenté par Anne Fauquemberg. Bonsoir Anne.
Bonsoir Julie, bonsoir à tous. Quelle stratégie face à la menace nord-coréenne ? Le sujet sera sur la table de la 72e Assemblée générale des Nations Unies à partir de demain. Cet après-midi, la représentante américaine permanente à l'ONU, Nikki Haley, a donné le ton. Il faut relancer l'option militaire, selon elle. Le point avec notre correspondant à New York, Marco Voltaire, au début de ce journal. Toujours aux États-Unis, le mouvement de protestation contre l'acquittement d'un policier blanc à Saint-Louis, dans le Missouri, peut-il prendre la même ampleur qu'à Ferguson il y a 3 ans ? C'est ce que nous verrons avec notre correspondant Grégory Philips. En France, le secrétaire national du Parti communiste a fait son discours de clôture à la fête de l'humanité. Exit les reproches à Jean-Luc Mélenchon. La cible de Pierre Laurent cet après-midi, Emmanuel Macron et ses propos sur les fainéants. Reportage de Laurence Perron à suivre. Des artistes présents à la fête de l'humanité, mais aussi place de la Concorde à Paris cet après-midi. C'était l'opération Printemps solidaire. Des concerts pour demander au chef de l'État de revoir à la hausse l'aide française au développement. Et puis au sommaire de dimanche et après, Julie Gacon.
Eh bien, nous parlerons de la stratégie du gouvernement en matière de logement qui sera présentée mercredi en Conseil des ministres. On en connaît les grandes lignes, baisse des APL et baisse des loyers, l'une devant compenser l'autre. Mais qui peut aujourd'hui baisser les loyers ? Nous en parlons avec nos invités.
Merci Julie et à tout à l'heure, 18h15. Mais avant de développer ces titres, 10 jours après le passage meurtrier du cyclone Irma dans les Antilles françaises, comment la vie reprend-elle à Saint-Martin et Saint-Barthélemy ? Ces deux territoires ont été ravagés par les pluies et les vents violents. Ce n'est d'ailleurs pas tout à fait terminé puisqu'une tempête tropicale du nom de Maria est à l'approche. Elle pourrait même se transformer en ouragan dès demain soir. Les conditions restent précaires donc, mais l'heure est à l'optimisme et les écoles se préparent à retrouver les enfants, Béatrice Duguay.
Pour organiser une rentrée, encore faut-il que les établissements scolaires soient aptes à accueillir les profs et les élèves, c'est-à-dire qu'ils soient intègres, même partiellement. Sécuriser les espaces, les pompiers, les membres de la protection civile, les militaires y travaillent, témoin cette mission de la Légion étrangère dans un collège du quartier d'Orléans sur la côte est de l'île.
Donc là c'est le tour de l'école, donc c'est tout ce qui était clôture qui ont été emportées par le cyclone. Toutes ces clôtures, bon, en fait, ça peut représenter un danger pour les enfants lorsqu'ils courent, lorsqu'ils circulent dans la cour. Donc là, en fait, les pompiers découpent les clôtures, les légionnaires, ils manutentionnent, ils les chargent dans le plateau, dans le véhicule qui est ici. Et puis après, on les transporte dans une pointe qui est à l'extérieur de l'école.
Clôture par terre dans cet établissement, mais ailleurs, ce sont des toitures envolées, des vitres brisées, des rambardes ou des escaliers fragilisés, de l'électricité qui manque. Les services de l'éducation nationale sont à pied d'œuvre depuis plusieurs jours pour recenser les locaux en état et en faire la liste à Michel Sens, l'inspecteur d'académie.
On a repéré 11 sites. On ne va pas appeler ça école, collège ou lycée, bâtis et tentes. Ces fameuses tentes qui sont aménagées avec des sanitaires secs, avec de l'électricité, enfin des groupes électrogènes et tout ça. Donc pour le moment, on serait sur 11 sites pour mardi, mercredi, au plus tard jeudi.
Vous aurez compris que la rentrée scolaire sera très progressive sur Saint-Martin, dans l'adversité.
Reportage signé Béatrice Duguay. À New York, la 72e Assemblée générale des Nations Unies accueille la plupart des dirigeants de la planète à partir de demain. C'est le seul organe de l'ONU où tous les États membres ont le même pouvoir. Emmanuel Macron sera présent à partir de demain. Et dans un discours mardi, il devrait défendre le pacte mondial pour le climat. Cette session sera également dominée par le drame des Rohingyas, mais aussi les tensions avec la Corée du Nord. Cet après-midi, la représentante permanente des Nations Unies à l'ONU a pris les devants en relançant l'option militaire, Marco Voltaire.
Après avoir sanctionné quasiment tous les secteurs économiques nord-coréens, le Conseil de sécurité se retrouve de plus en plus dos au mur. Malgré les votes à l'unanimité, malgré les concessions de la Chine, chaque résolution depuis début août a été suivie par un nouveau tir ou un nouvel essai nucléaire du régime de Pyongyang. D'un côté, Nikki Haley avait expliqué vendredi, alors que le Conseil de sécurité se retrouvait une nouvelle fois en urgence, qu'il fallait laisser aux sanctions le temps d'agir, des sanctions qui ont, selon ses mots, déjà commencé à étrangler l'économie nord-coréenne. Mais si rien ne change, comme le répète Nikki Haley ce dimanche, il faudra passer le dossier à l'armée. Pour quelle stratégie militaire ? C'est évidemment toute la question vu la complexité du cas nord-coréen. Pour le moment, c'est surtout à une surenchère verbale à laquelle on a assisté, à l'image de Donald Trump qui avait promis le feu et la colère à Kim Jong-un. Écoutez encore ses toutes dernières déclarations, c'était lors d'une visite d'une base de l'US Air Force vendredi, juste avant de partir en week-end. J'ai vu aujourd'hui vos capacités et votre engagement et je suis plus confiant que jamais que nos options face à la menace nord-coréennes sont en place et surpuissantes. Le président américain doit rencontrer ses homologues japonais et sud-coréens jeudi en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, le jour même de la prochaine réunion du Conseil de sécurité.
Correspondance de Marco Voltaire à New York. J'ajoute cette déclaration de Rex Tillerson, le secrétaire d'État américain, à l'instant sur CBS. Si nos efforts diplomatiques avec la Corée du Nord échouent, notre option militaire sera la seule qui nous restera. Rex Tillerson, qui annonce aussi que les États-Unis pourraient rester dans l'accord de Paris. Toujours aux États-Unis, de nouvelles tensions raciales se font jour à Saint-Louis, dans le Missouri. Comme à Ferguson, il y a 3 ans, c'est le même scénario. L'acquittement d'un policier blanc qui avait tiré sur un homme noir. Le mouvement de protestation a pris vendredi soir, d'abord pacifique. Les manifestations ont pris un tour violent ces 2 dernières nuits, Grégory Phillips.
Pour la 2e soirée consécutive, ils sont descendus dans les rues de Saint-Louis au cri de Black Lives Matter. Les vies noires comptent, plusieurs centaines de manifestants pour protester contre l'acquittement du policier Jason Stockley. Vous ne pouvez pas leur donner le droit de tuer une personne innocente, dit cette manifestante filmée par CNN. Les faits remontent au 20 décembre 2011. Anthony Lamar Smith est tué dans sa voiture de 5 balles de revolver, tiré par le policier alors que le jeune homme de 24 ans cherche à prendre la fuite. Les images ont été filmées par la caméra installée à bord du véhicule des policiers. Pendant les 5 semaines qu'ont duré le procès, l'ex-policier Jason Stockley a clamé son innocence. Il l'a redit hier lors d'une interview accordée à un journal local.
Je peux vous dire avec certitude que je n'avais pas l'intention de tuer Anthony Smith. Avec ce verdict, c'est comme si on m'avait enlevé un poids. Mais ce poids d'avoir tué quelqu'un ne me quittera jamais.
Mais ça n'a pas suffi à calmer la colère des manifestants. Le groupe U2, qui hier soir devait jouer à Saint-Louis, a préféré annuler son concert pour des raisons de sécurité.
Explication signée Grégory Phillips, correspondant permanent à Washington. Dans l'enquête sur l'attentat de Londres, dont le bilan est désormais de 30 blessés, un 2e suspect a été arrêté à l'ouest de la capitale britannique. Il s'agit d'un jeune homme de 21 ans. Une nouvelle perquisition a également été lancée en lien avec cette interpellation dans ce secteur. Un premier suspect âgé de 18 ans avait été arrêté hier matin dans la zone de départ du port de Douvres. Le niveau d'alerte terroriste qui avait été placé à son plus haut niveau est d'ailleurs redescendu d'un cran cet après-midi. En France, le week-end a été marqué par le fossé qui s'élargit entre le Parti communiste français et la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon s'est défendu après la charge lancée hier par le secrétaire national du Parti communiste, Pierre Laurent, qui a asséné à la fête de l'humanité que personne ne peut prétendre détenir la vérité à lui tout seul. Écoutez la réponse du chef de file des insoumis. Il s'est exprimé depuis l'île de la Réunion où il se trouvait ce week-end.
C'est du Lamartine. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Bon, je vois bien qu'il y a eu une espèce d'escalade. Hein. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça, alors ? J'étais invité au convoqué, là, qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Les réunionnais, ils m'accueillent, on a fait un meeting, je suis reçu, ici, là, bon, bah, ça mérite de la considération, non ? Les communistes sont toujours mes amis, ils viendront par dizaines de milliers au rassemblement le 23, c'est pas un sujet pour moi. C'est pas parce qu'il y a une direction communiste en perdition qui s'accroche maintenant, qui ne s'exprime plus que contre moi. Mais les communistes, c'est pas un problème pour moi, c'est une solution. Ils ont toujours été dans l'action avec moi et ils savent que je les aime et les respecte dans ce qu'ils sont. Mais eux aussi, je dis, écoutez, respectez ce que je fais, quoi. C'est pas la peine de tout le temps être en train de dire pas de culte de la personnalité. Dès que je suis pas quelque part, tout le monde pleure parce que j'y suis pas.
Une direction communiste en perdition. Jean-Luc Mélenchon ne mâche pas ses mots, mais pas de quoi gâcher la fête cet après-midi. Pierre Laurent n'a pas boudé son plaisir lors de son discours de clôture. Laurence Perron.
Sur la scène que foulait hier Iggy Pop et aujourd'hui Renaud, Pierre Laurent la joue berrurier noir.
Salut à vous les paresseux, les ramiers, les flemmards, les clampins, les bons à rien. Les cossards, les tirs au flanc et les tirs au cul. Salut à vous, les branleurs, les branle-la-guiches, les inspecteurs des travaux finis et les fatigués de naissance. Salut à vous, les 99% qui triment au royaume de l'argent.
Un discours de combat contre les projets du gouvernement et d'Emmanuel Macron qui l'interpelle directement.
En vérité, monsieur Macron, de votre maigre cuisse de Jupiter ne sort pour le moment que la foudre pour les travailleurs et les droits sociaux. Vous devriez vous méfier, monsieur Macron, parce que ce peuple de France que vous méprisez, il aime tellement les réformes qu'il en a souvent fait des révolutions.
Pas question de déraper sur l'union de la gauche et de son leadership. Le meilleur opposant, c'est le peuple, assène le secrétaire national du Parti communiste. Enfin, sur la polémique qu'il a lui-même allumée hier, en ironisant sur l'absence de Jean-Luc Mélenchon, tout est de la faute des journalistes.
Mais ils n'ont rien compris. Et parce qu'ils sont tous un peu durs de la feuille, je vous demande de le crier avec moi. Unité ! Unité ! Unité !
Et Pierre Laurent, de conclure unité. Le 23 septembre avec les Insoumis, soyez présents. Si cela ne vaut pas excuse à Jean-Luc Mélenchon, alors on n'a vraiment rien compris.
Reportage signé Laurence Perron. C'est une promesse budgétaire qui a été faite il y a des dizaines d'années par une trentaine de pays de l'OCDE, dont la France, allouée 0,7% de leur revenu national brut pour l'aide publique au développement. Aujourd'hui, le compte n'y est pas. Paris est à 0,4% environ, ce qui est loin donc de cette promesse. Alors pour rappeler les engagements de la France au président Macron qui s'envole demain à l'ONU. Un grand concert a été organisé cet après-midi, place de la Concorde à Paris, initiative de Printemps solidaire. Il est plus urgent de s'attaquer au chômage en France que d'ouvrir à toutes les femmes l'aide médicale à la procréation. Déclaration du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb ce matin chez nos confrères de RTL. Déclaration qui apparaît en décalage avec le projet du gouvernement d'élargir la PMA aux femmes célibataires et en couple à l'horizon 2018. C'est ce que déclare en tout cas la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa. Ces réserves émises par le ministre de l'Intérieur, eh bien, elles ont fait réagir la Manif pour tous qui organisait ce week-end son université d'été en région parisienne, Manif pour tous, dont Albéric Dumont est le vice-président.
Marlène Schiappa nous annonce l'arrivée de la PMA sans paix en 2018. Nous avons émis des réserves sur cette annonce qui était très floue et on se demandait si ce n'était pas une initiative personnelle. Aujourd'hui, quand on voit la communication de l'Élysée qui essaye de tempérer, de limiter cette annonce, on voit aujourd'hui la déclaration de Gérard Collomb qui nous dit quand même que la priorité c'est le chômage, pas les sujets sociétaux. Voilà, on se dit que Marlène Schiappa a voulu entraîner Emmanuel Macron dans un piège sociétal et on espère qu'il ne tombera pas dedans. Nous, aujourd'hui, ce que nous ne souhaitons pas, c'est effectivement cette injustice vis-à-vis des enfants, le fait qu'on ouvre une PMA sans père et qu'on prive délibérément un enfant d'un de ses parents. C'est le projet de la secrétaire d'État, ce n'est pas le nôtre et donc nous allons lutter contre ce projet. J'ai l'impression que c'est son ambition personnelle et non pas forcément la politique du gouvernement, en tout cas en l'état actuel des déclarations.
Propos recueillis par Antoine Marette. Enfin, c'est une étude inquiétante sur la santé des futurs infirmiers. Enquête réalisée par la Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers qui sera rendue publique demain matin. Plus de 14 000 jeunes interrogés entre le 23 février dernier et le 9 avril. La moitié de ces étudiants considèrent que leur état de santé s'est dégradé depuis leur entrée en formation. Bonsoir Sarah Petitbon.
Bonsoir Anne.
Pour l'association qui a commandé cette étude, ce résultat s'explique d'abord par la précarité de cette catégorie d'étudiants en particulier.
Oh oui, c'est ça. Le premier constat de cette enquête, c'est bien la très forte précarité subie par ces étudiants infirmiers. Une précarité bien supérieure, selon le document, à celle vécue par la moyenne des étudiants en France. En cause notamment le coût des concours et la nécessité pour les étudiants d'en passer par des classes préparatoires privées, souvent très chères. En cause aussi le fonctionnement même des instituts de formation aux soins infirmiers, la plupart du temps éloignés des grands centres universitaires, privant du même coup leurs étudiants des avantages d'une restauration collective à moindre coût ou de logements étudiants peu chers. Nombreux sont alors celles et ceux, pointe le rapport, à renoncer aux services de santé. 37% des étudiants infirmiers interrogés disent ainsi avoir dû renoncer à des soins pour des raisons financières. C'est trois fois plus, Anne, qu'au sein de la population générale étudiante.
Deuxième point abordé dans cette étude, conséquence d'ailleurs de la précarité, la mauvaise condition psychique et physique des futurs infirmiers.
Oui, et ce qui est frappant à la lecture de l'étude, c'est que leur état de santé se détériore au cours de leur formation. Là encore, les chiffres sont impressionnants. Selon l'étude, les trois quarts des étudiants sont épuisés physiquement et psychologiquement. Un tiers est sujet à des crises d'angoisse ou à de la dépression. Et en troisième année, plus d'un étudiant sur trois déclare avoir pris des psychotropes pour calmer ses angoisses. La FNESI, la Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers, explique cette détresse par le harcèlement subi au cours de leur stage de la part du personnel encadrant. Harcèlement que l'étude qualifie parfois de maltraitance, mais aussi par la charge de travail qui est imposée à ses étudiants dans un contexte très stressant. Elle réclame donc des mesures d'urgence pour penser la refondation des études et une sensibilisation des formateurs à ces problématiques.
Merci Sarah Petitbon pour votre compte-rendu. La météo de demain lundi, de la pluie dans les Hauts-de-France et sur les régions du sud-ouest. Ciel également nuageux sur les bords de la Méditerranée. Temps plus lumineux avec de belles apparitions ensoleillées sur l'ouest de la France et les températures de 13 à Cherbourg jusqu'à 21 degrés à Ajaccio. Ce journal a été préparé avec Caroline Beneteau.